franceinter.fr.
8h30 sur France Inter, la revue de presse. Et c'est avec Olivier Bénis. Olivier Bénis, dans la presse ce matin, vous avez d'abord repéré les raisons de la chute dans les sondages d'Emmanuel Macron.
Oui, 100 jours après le second tour de la présidentielle, le Figaro s'inquiète du désamour pour Emmanuel Macron. Les Français désaiment donc ce président qu'il devait pourtant tant aimer. Seuls 36% des personnes interrogées par IFOP se disent satisfaites. 10 points de moins que François Hollande à la même période, ce qui fait dire à Yves Tréhard dans son éditorial que la saison des illusions est finie. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, lui préfère parler de la fin de la saison 1 de la série Macron, celle de la conquête, de la recomposition politique, du dépassement de la vieille politique. Arrive bientôt la saison 2 avec le vote d'un budget qui va décoiffer, nous promet-il. Sauf que cette saison 1 de 100 jours n'était pas non plus très convaincante, rappelle Marcelo Westfred. La nouvelle majorité, composée en large partie de néophytes, a péché par inexpérience et manque de discipline collective, explique-t-il toujours dans le Figaro. L'un d'eux raconte même, comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi les nouveaux députés, au début, personne ne voulait accepter de recevoir de consignes. Pire, même l'annonce des JO à Paris ne semble pas avoir eu d'effet positif, assure le directeur du pôle opinion d'Olifop. Bref, l'été est difficile pour Emmanuel Macron, dont on a souvent dit qu'il était un prodige de la politique. L'occasion de se souvenir de ce que disait Pierre Desproges à propos d'un autre prodige, Wolfgang Amadeus Mozart. Il était tellement précoce qu'à 34 ans et demi, il était déjà mort. Étonnant, non?
Et justement, Olivier Bénis, le Parisien s'est penché, lui, sur le cas des ministres dont on ne sait pas trop à quoi ils servent.
Ils sont 7 à n'avoir aucune attribution, précise un record selon le journal. Une ministre et 6 secrétaires d'État avec un titre vierge, simplement secrétaire d'État auprès d'un ministre. Certains y ont vu la volonté du président de placer des hommes et des femmes de confiance, mais pas du tout, jurent les intéressés. Selon Jean-Baptiste Lemoine, il faut y voir une philosophie d'avoir des secrétaires d'État généralistes. Le Parisien avance aussi une autre explication qui dit moins de ministères, dit périmètre d'action potentiellement plus large. Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, estime justement que son ministère est tellement grand qu'on n'est pas trop de deux. Elle a d'ailleurs très vite été amenée à s'occuper du dossier particulier des migrants. Idem au ministère de la Transition écologique où Nicolas Hulot est assisté de pas moins de 2 secrétaires d'État, Sébastien Lecornu et Brune Poirson, qui assurent avoir des profils complémentaires. Elle, spécialisée dans les questions internationales, lui, dans les questions territoriales, en attendant de voir si les deux seront toujours compatibles.
Dans Libération, une analyse intéressante du regard complexe de la gauche française sur le Venezuela.
Oui, mais aussi de l'embarras dans lequel les opposants de la France insoumise tentent de plonger le mouvement. Lilian Almania décrypte aujourd'hui en quoi le régime de Nicolas Maduro, mais surtout avant lui celui d'Hugo Chavez, est une source d'inspiration complexe pour les partisans de Jean-Luc Mélenchon et une source de rude débat au sein de la gauche anticapitaliste française. Le problème, c'est que c'est aussi un excellent outil de bashing, comme le dit le leader de la France insoumise lui-même. Pour l'altermondialiste Christophe Aguiton, le Venezuela est, pour les adversaires de Jean-Luc Mélenchon, un bon moyen de lui accrocher quelques casseroles. Il faut donc faire les deux à la fois, critiquer l'interventionnisme américain, mais dire aussi que ce que fait Maduro n'est pas acceptable. Une idée reprise par le chercheur Christophe Ventura, la question du chavisme, dit-il, n'est jamais neutre lorsqu'elle est traitée dans les médias. C'est fait pour disqualifier ce que vous êtes, pour mettre en échec toute autre idée de progrès social et démocratique. Bref, résume la députée Clémentine Autain, on attend de nous une délégitimation totale de Maduro, de Chavez et derrière cela de toutes les expériences sociales en Amérique du Sud, avec derrière une seule crainte, résumée ainsi par Libé, émettre aujourd'hui un doute public sur Maduro, ce serait concéder aux adversaires une part de terrain idéologique et favoriser ensuite l'offensive pour tailler en pièces le programme entier de la France insoumise.
Et toujours dans Libération, Olivier Bénis, on se demande d'où vient la récente passion des politiques pour la boxe.
Alors on parle bien du sport, hein, pas du débat politique en général. Depuis quelques années, nous explique Laure Breton, les hautes sphères du pouvoir se convertissent à la boxe. Édouard Philippe boxe, tout comme Valérie Pécresse, Manuel Valls, Laurence Parisot et une tripotée de conseillers de l'exécutif, nous dit-on. Alors certes, on est plus proche d'un gentleman gym que de Rocky Balboa, mais les messages sont limpide, bien dans sa peau, bien dans sa tête, prêt au combat. André Zetoun, coach en boxe thaï depuis plus de 30 ans, y voit une volonté de revenir à la réalité. On se frotte aux autres, mais aussi une recherche d'un côté dominant-dominé qu'offre justement la boxe. Sans oublier un fort coefficient d'encanaillement, taquine la journaliste. La boxe a un parfum de voyou, très enivrant pour des politiques corsetées toute la journée. Mais promis, tout ça sans animosité, même si, quand on lui parle du sac de frappe installé dans la salle de sport de Matignon par Manuel Valls et repris aujourd'hui par Édouard Philippe, Son conseiller Gilles Boyer se marre. On ne vous dira pas quelle photo il a collée dessus.
Ce matin, la presse relance aussi le drame shakespearien de la FIFA.
Le Monde reprend une information de Der Spiegel, l'hebdomadaire allemand, qui révèle un document assez croustillant autour du FIFA Gate. En 2015, plusieurs hauts responsables signaient une proposition de contrat du cabinet d'avocats californien Quinn Emanuel, contrat prévoyant la défense des intérêts de la FIFA contre le département d'État de la justice américaine. Sauf que la fédération n'a en fait eu affaire à cette juridiction que le 27 mai 2015, avec le gros coup de filet contre plusieurs dignitaires à Zurich, qui a entraîné ensuite la chute de Sepp Blatter. Autrement dit, plusieurs dirigeants avaient eu vent de ce coup de filet 142 jours avant qu'il ait lieu, à la grande surprise du patron de l'époque, qui dénonce aujourd'hui un complot interne contre lui. Sepp Blatter qui ne compte pas se laisser faire, il l'explique au Monde. Je me rappelle d'une belle histoire française qui s'appelait le dîner de cons. Moi, on m'a considéré comme un con, mais dans l'histoire, c'est le con qui a finalement gagné.
Et ce n'est pas tous les jours qu'on a aussi une interview de la foudre en personne.
Et c'est pourtant ce qu'a réussi à faire l'équipe ce matin. La foudre, c'est évidemment l'un des surnoms d'Usain Bolt, futur retraité de l'athlète après une dernière course aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir dire que c'est moi, l'humain le plus rapide sur Terre, raconte le plus célèbre des Jamaïcains, juste derrière Bob Marley. Celui qui déteste, dit-il, plus la défaite qu'il n'aime la victoire et qui assure que ce qu'il gardera en héritage, ce ne sont pas les records, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour faire mieux que ce qui se faisait, mais les médailles. Les records viennent derrière, ils ne sont qu'une conséquence d'aller chercher des médailles, dit-il. Usain Bolt qui raconte aussi comment l'ambiance a changé dans les couloirs ces dernières années, en partie sous son influence. Quand je suis arrivé dans l'athlétisme, l'ambiance du sprint était tendue. Aujourd'hui, les gens apprécient de voir des gens relax, qui s'éclatent sur la piste, des rires, une énergie positive. Rien à voir donc avec ses premières années d'athlétisme, quand Justin Gatlin crachait dans son couloir avant le début de la course, au grand désarroi d'un Bolt qui se contentait de répondre en haussant les épaules.
Et puis pour terminer, Olivier Bénis, dans Le Monde, on trouve aussi ce matin une petite histoire digne d'une aventure de Tintin.
Jugez plutôt des diplomates américains et canadiens en poste à Cuba et qui tombent mystérieusement malades au point de justifier leur rapatriement en toute discrétion. Le département d'État américain ne l'a reconnu que cette semaine, mais pourtant ça fait des mois que ça dure. On ne sait rien sur ce mal qui les touche, le porte-parole se contentant de parler d'une série de troubles physiques. Alors certains évoquent une arme acoustique qui utiliserait des ultrasons. Le gouvernement canadien parle d'une perte d'audition même d'un des diplomates concernés, pendant que le pouvoir cubain, lui, se couvre en assurant que Cuba ne tolérera jamais que son territoire soit utilisé pour toute action visant des diplomates. Bref, le mystère reste entier, mais c'est quand même à se demander si Raskar Capac n'aurait pas emménagé à la Havane.
Merci Olivier Bénis, c'était la revue de presse.